suite de la première épître de Jean, chapitre 4, versets 10 à 15. Prière de se reporter à sa Bible pour la lecture préalable de ces versets.
Nous repartons à 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous allons voir dans tout ce passage une très grande insistance sur l'envoi par Dieu de son Fils comme victime expiatoire. Une grande insistance, et cela doit éveiller notre attention. En somme, avons-nous vraiment, comme cet épître nous le montre, fondé notre vie sur cette grande réalité-là? Nous la connaissons, nous en parlons souvent dans nos prières et dans nos échanges, dans les messages, mais avons-nous vraiment fondé notre vie là-dessus? N'est-ce pas? Avons-nous conçu, connu, si vous voulez plus exactement, avons-nous représentés que notre vie est d'essence spirituelle, fondée sur un acte de Dieu extraordinaire, un acte de Dieu unique? Est-ce que nous avons vraiment fondé notre vie là-dessus? C'est peut-être la réalité de ce fondement qui fait nos difficultés, nos faiblesses, notre insuffisance à observer les commandements, la parole du Seigneur. Un défaut de solidité du fondement. C'est la réflexion, n'est-ce pas, qui nous vient quand on voit cette insistance de Jean et que l'on scrute son texte, que l'on étudie son texte, on se pose nécessairement cette question, mais pourquoi insiste-t-il? Et vous allez voir quelle insistance encore nous allons trouver dans les quelques versets que nous avons lus. L'apôtre nous dit que Dieu a manifesté son amour en ce qu'il nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors, essayons de revoir ce qu'est le péché rapidement, sans faire évidemment toute une étude sur ce sujet. Avec les mots hébreux, je crois que l'étude du péché est très facile avec l'ensemble des mots hébreux et grecs qui sont traduits par péché. Il y a tout un choix de mots, n'est-ce pas, que l'on ne peut pas rendre en français. Dans l'hébreu, il y en a peut-être une vingtaine de mots qui sont traduits par péché dans la Bible, et puis dans le grec, il y en a quelques-uns. Mais sans faire le tour même de tous ces mots-là, dont d'ailleurs la collection est excessivement intéressante, disons simplement, n'est-ce pas, sans inventer nous-mêmes, mais en nous appuyant sur cela, n'est-ce pas, eh bien, le péché, c'est ce qui est contraire à l'ordre de la vie, c'est ce qui est tortueux, c'est ce qui est folie, c'est ce qui est aveuglement, c'est ce qui est révolte, transgression, offense, désobéissance, injustice. Voilà, n'est-ce pas, dans l'ensemble, mais il y aurait encore d'autres aspects. Je retiens ceux-là seulement. Si bien que le péché est avant tout le rejet de l'amour, puisque c'est la désobéissance, la transgression, l'offense qui est contraire à l'ordre de la vie, c'est le rejet de l'amour, tout simplement. Voilà. Prenons, n'est-ce pas, bien cela, que le péché est le rejet de l'amour, et par conséquent, le rejet de la vie, c'est l'aiguillon de la mort. Le péché est, par conséquent, lui-même, n'est-ce pas, une négation effective de l'amour. Notez ceci, chers amis, c'est que l'homme, en commettant le péché, est pratique. Je vous étonne peut-être. Il est pratique parce que là, le péché, eh bien, c'est quelque chose qui se manifeste dans le cours de la vie. N'est-ce pas? C'est la vie elle-même, l'existence elle-même de l'homme, n'est-ce pas, qui manifeste dans des actes, des paroles, des pensées qui manifestent le péché. Le péché, autrement dit, l'humanité n'en a pas fait un principe théorique, mais, hélas, une triste réalité. Tandis que de l'amour, l'humanité n'en a fait qu'un principe. À quoi a-t-elle donné, n'est-ce pas, l'humanité a-t-elle donné la pratique dans son existence? C'est au péché. C'est pourquoi le Seigneur va nous dire, heureux si vous mettez ces choses en pratique, parce que vous allez cesser la pratique du péché pour pratiquer l'amour, pratiquer les commandements. En plus bref, sur le péché, nous pourrions dire ceci, c'est que le péché résulte de ce que, au lieu d'aimer Dieu, l'homme s'aime lui-même. Au lieu d'aimer Dieu, l'homme s'aime lui-même. On a dit, avec raison, que l'orgueil est à la racine du péché. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, c'est Dieu qui le dit. Dans Habacuc, il est dit, son âme, en parlant de l'homme impersonnel, son âme n'est pas droite, son âme s'est enflée. Vous savez ce que ça veut dire, enflée, n'est-ce pas? Est enflée, d'orgueil. Son âme s'est enflée. C'est bien donc, n'est-ce pas, l'orgueil qui est à la racine du péché, mais qui dit l'orgueil? Regardez bien l'orgueil, considérez-le en lui, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il est? Mais dans le fond, n'est-ce pas, il est un égoïsme, il a avec lui l'égoïsme, parce que l'orgueil, n'est-ce pas, c'est une recherche d'avantage pour soi. Par conséquent, l'homme s'aime lui-même. Il est orgueilleux parce qu'il s'aime lui-même, donc il n'aime pas de l'amour de Dieu. Il n'a plus la possibilité de faire émaner de sa personne l'amour de Dieu. Et observons les manifestations du péché, en effet. Ce sont, je disais, des pensées, des paroles, des actes qui tous proviennent d'une recherche de sa propre satisfaction, qui proviennent d'un être qui, à cause de la chute, n'est-ce pas, du mauvais choix, est replié sur lui-même. Pourquoi le mensonge, par exemple? Pour tromper en notre faveur, pour dissimuler à son propre avantage. Qu'est-ce que le crime? C'est l'impulsion violente contre celui dont la vie gêne le meurtrier. Tout est une recherche pour soi, voyez-vous. Et cette recherche d'avantage pour soi, qu'est le péché, c'est dans la nature du péché, cette recherche pour soi, n'est-ce pas, détruit toute la loi de Dieu, est contraire à toute la loi de Dieu, contraire à l'amour de Dieu, et par conséquent, contraire à la vie. La vie ne peut pas s'établir là, ne peut pas se poursuivre là où il y a cette action contraire à l'amour. Aussi, ayant un cœur qui enfante le péché, qui est, nous avons dit, la négation de l'amour, l'homme s'est lui-même coupé de Dieu, il s'est rendu incapable d'une relation bienfaisante avec Dieu. Il s'est lui-même coupé. Ben, on dit que ce sont nos transgressions qui nous ont séparés de Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. C'est pas, Dieu n'a pas eu besoin, n'est-ce pas, de faire une coupure. La coupure s'est faite. Ce sont nos transgressions qui établissent une coupure, une séparation d'avec Dieu. Il s'est rendu incapable d'une relation avec Dieu. Il est donc séparé de la gloire, c'est-à-dire séparé de la présence de Dieu qui nécessairement faisait rejaillir sur lui la gloire de Dieu. Il est coupé de la gloire, il est privé de la gloire de Dieu. Il en est séparé, ça ne peut pas. Par le jeu, pourrait-on dire, d'une loi fondamentale, il est séparé de la gloire de Dieu, il est séparé de la source de vie. Et cet état de péché, ancré en l'homme, lui masque entièrement la réalité de Dieu. Il ne connaît Dieu ni dans sa pensée, ni pratiquement dans sa vie. L'homme a motivé ainsi contre lui la condamnation de la justice de Dieu. La justice de Dieu, elle, que fait-elle? elle supporte la vie parfaite. Elle est le support de la vie parfaite. Alors, l'homme, bien entendu, s'est condamné vis-à-vis de cette justice. Donc, l'amour ne consiste pas en ce que nous avons aimé Dieu, nous dit l'apôtre, n'est-ce pas ? L'amour n'est pas avoir du côté de l'homme, nous venons de l'expliquer, puisque l'homme en manifeste la négation. Et l'amour consiste en ce qu'il nous a aimé et nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour consiste en cela, c'est-à-dire, le mot consiste n'est peut-être pas tout à fait à sa place, il faudrait plutôt dire ceci, l'amour est à voir en ce que, l'amour est à voir, est à trouver, est à reconnaître, n'est-ce pas, en ce que, du côté de Dieu, n'est-ce pas, en ce que Dieu nous a aimés, c'est lui, n'est-ce pas, qui nous a aimés, nous ne l'avons pas aimé, nous avons fait le contraire, mais lui, n'est-ce pas, nous a aimés, est à voir donc du côté de Dieu, Dieu qui ne se contenta pas, veut souligner l'apôtre, d'affirmer son amour en tant que principe, ou en tant que sentiment, il fit même plus qu'une démonstration de son amour, puisqu'il le fit agir, il fit agir son amour en une réalisation, réalisation coûteuse pour Dieu, qui lui a coûté beaucoup. Une réalisation coûteuse qui transforme du tout au tout la situation désastreuse de l'homme, qui engloutit le péché de l'homme et la mort pour redonner par conséquent la vie éternelle. Voilà, n'est-ce pas, un peu développé ce qu'exprime Jean dans ce verset 10. Et s'il l'exprime, c'est pas pour nous dire quelque chose que nous savons déjà. Il arrive quelquefois qu'on dise, oui, ça je le sais. Mais, chers amis, ça je le sais. Mais ça, il faut que je le médite. Si Dieu appelle mes regards, chaque fois qu'il appelle mes regards sur cela ou sur une autre partie de l'écriture, n'est-ce pas, où des choses que je sais déjà sont dites, il faut pas, n'est-ce pas, se dire, oh ben ça je le sais déjà, passons, allons plus loin, je sais déjà cela. Mais non, c'est une invitation à le reméditer, chers amis. Ce sont des choses qu'il faut méditer constamment. Il ne s'agit pas de dire je le sais, c'est-à-dire je l'ai dans la mémoire, n'est-ce pas? Il faut l'avoir dans le cœur comme une réalité constamment. Et je vous dis, ce qui nous manque, c'est un fondement spirituel solide et établi sur la grande vérité centrale, le don de Jésus comme victime expiatoire. Donc, Dieu, par cet envoi de son Fils, conféré à l'homme la capacité d'aimer à son tour, d'où l'affranchissement du péché. Il va l'affranchir du péché, victime expiatoire pour nos péchés, il va l'affranchir du péché et lui redonner la capacité d'aimer, n'est-ce pas ? Il va supprimer cette courbe, n'est-ce pas ? Et puis rétablir la ligne pointillée, redonner la possibilité d'aimer. Par Jésus-Christ, l'amour de Dieu atteint l'homme de foi, l'étreint, le transforme, le libère du mal, de ce mal qu'on pourrait appeler le mal anti-amour. Aujourd'hui, il y a des anti-sociétés, des anti-autorités, des anti-toutes sortes de choses, mais il y a au-dessus de tout ça, l'anti-amour, n'est-ce pas, qui englobe tout le mal. Alors, nous pouvons dire que par Jésus-Christ, l'amour de Dieu, n'est-ce pas, libère l'homme de l'anti-amour et lui ouvre la voie de son amour. L'homme va pouvoir aimer à nouveau. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. À regarder cela en premier, on pourrait se dire tout de suite, ben oui, mais Jean l'a déjà dit ça, n'est-ce pas ? Il l'a déjà dit, oui, bien sûr, n'est-ce pas ? Et il va encore le redire. Parce que il faut considérer cela, n'est-ce pas, sous différents aspects. C'est pas assez de le voir une fois. Nous devons nous aimer les uns les autres. Le Seigneur Jésus a dit que c'était un commandement nouveau, et un commandement auquel on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. On reconnaîtra, dit Jean 17, que le Père a envoyé le Fils en ce que vous vous aimerez les uns les autres, en ce que vous serez un, ensemble. Nous allons manifester l'Église par cela. Vous voyez si c'est important, n'est-ce pas, extrêmement important. Mais ici, nous voyons quelque chose qui pourrait un petit peu nous gêner. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer. Nous devons. C'est pas beaucoup ça, on n'aime pas beaucoup ça. Ce devoir, n'est-ce pas? Cette obligation, nous devons, c'est une obligation. On n'aime pas beaucoup ça. Bien des gens diront, mais nous sommes dans le temps de la grâce. Oui, c'est vrai. Nous sommes dans le temps de la grâce. Ici, c'est une obligation, c'est un commandement. Mais attention, cette obligation est libre, elle aussi. Soyez tranquille, elle est libre, elle aussi. Et car ce qui est selon l'amour doit être libre. L'amour, bien entendu, implique des conséquences qu'on ne peut pas laisser absentes, notamment la conséquence de s'aimer les uns les autres. On ne peut pas la laisser absente. Ben, l'amour implique cela. Jean va nous le dire, à quoi ça servirait de dire j'aime Dieu et de haïr son frère. Ben, non, ça implique des conséquences. Ben, c'est vrai. Ben, mais attention, l'amour agit toujours dans une entière liberté. C'est le propre de l'amour. Hein? Et c'est pour ça que le légalisme dans l'Église ne marche pas. Ça ne peut pas aller, ça. Ça ne peut pas aller, puisque, n'est-ce pas, l'Église, dans le temps de la grâce, nous a replacés sous la grâce. Ce n'est plus la loi qui est un instrument de pédagogie, mais c'est au contraire la grâce qui est un instrument d'accomplissement. N'est-ce pas? D'accomplissement. Mais, n'est-ce pas, tout dans le contexte, le grand contexte de l'amour. Et l'amour est libre. C'est pourquoi il est beaucoup parlé, il y a une insistance sur la liberté. Dans le Nouveau Testament, tout est permis, mais tout n'édifie pas, tout n'est pas bon. La liberté des enfants de Dieu, n'est-ce pas, liberté. Parce que un amour, imaginez-le, qui ne serait pas libre, ça ne serait pas un amour, ça, n'est-ce pas? Ça ne serait pas un amour. Si on nous force à faire quelque chose qui n'est pas selon notre cœur, ben, si on le fait par contrainte, n'est-ce pas? Parce qu'une contrainte s'exerce sur nous, mais on ne le fait pas, comme on dit, de bon cœur, et par conséquent, ce n'est pas là de l'amour, n'est-ce pas? Ce n'est pas de l'amour. L'amour, donc, nécessite la liberté, indispensable. Et dans le royaume de Dieu, plus tard, il y aura toujours cette justice qui est éternelle, bien sûr, c'est le grand ordre, c'est l'ordre. Mais elle ne sera plus répressive. Il n'y aura plus de menaces, il n'y aura plus de châtiments, il n'y aura plus de jugements à prévoir, à attendre, à craindre. Non, il n'y aura plus de tout ça, n'est-ce pas? Tout sera parfait. Et comment alors l'obéissance sera-t-elle elle-même parfaite? Comment la sainteté de Dieu sera-t-elle répandue sur toutes les créatures, n'est-ce pas? Puisque les créatures seront aussi saintes que Dieu est saint lui-même, n'est-ce pas? Alors, comment cela se fera-t-il? Par le lien de l'amour qui est le lien de la perfection, un lien de l'état de perfection. C'est très beau ce que dit Paul dans les Colossiens, l'amour est le lien de la perfection. C'est très très grand, c'est très profond. Alors, nous pouvons dire que l'amour est le lien de la perfection. Le lien de l'état de perfection notamment. Ça a plusieurs sens, cette affirmation, l'amour est le lien de la perfection. Ce n'est pas le propos actuellement d'en parler, mais disons, n'est-ce pas, que notamment, c'est le lien de l'état de perfection. Dans l'état de perfection, dans le royaume de Dieu, l'état de perfection, le lien entre les créatures, le lien entre les créatures et Dieu, ce sera l'amour, sa puissance de l'amour, l'amour libre, l'amour et sa liberté, qui a pour apanage sa liberté, la liberté, n'est-ce pas? Ce sera merveilleux. Il y a les communistes aujourd'hui qui voudraient, n'est-ce pas, la liberté, puis le grand ordre en même temps, n'est-ce pas? Alors la liberté, bah, ils l'ont à coup de sanctions, à coup de condamnations, à coup d'emprisonnement, n'est-ce pas? Voilà comment ils cherchent. Ils ne peuvent pas, on ne peut pas sans Dieu faire cela. Il n'y a que Dieu et l'amour de Dieu qui puisse réaliser ce qui sera obtenu dans le royaume de Dieu. Mais le Seigneur voudrait que l'Église soit l'antichambre du royaume de Dieu, n'est-ce pas ? Et que déjà dans l'Église, n'est-ce pas, il y ait ce lien de l'amour entre tous. Vous voyez comme c'est important. Si nous réalisons l'amour de Dieu pour nous, dans la grande réalité qu'est la rédemption, c'est-à-dire l'envoi de Jésus-Christ comme victime expiatoire pour nos péchés, si nous réalisons l'amour de Dieu pour nous, n'est-ce pas, dans cette réalité-là, nous ne pouvons manquer de lui emprunter sa puissance et son fruit en exerçant nous-mêmes l'amour envers les autres membres de l'Église. Voilà ce que Jean nous dit. Si nous réalisons cet amour, et nous le réalisons, n'est-ce pas, si nous le réalisons vraiment, surnaturellement, si ça pénètre en nous, non pas, n'est-ce pas, à l'état de pure doctrine, eh bien, si ça vraiment entre en nous, alors, là, n'est-ce pas, nous ne pourrons pas manquer de lui prendre sa puissance, son fruit, et ça viendra pour nous, n'est-ce pas, amour exercé, miséricorde, tout ce que vous voudrez, mais ce sera l'amour de Dieu en mouvement, en action, à l'égard des autres membres de l'Église. Mais il y aurait un danger. Il y aurait un danger, danger qui se présente souvent, qui est toujours là d'ailleurs, n'est-ce pas ? Les dangers n'ont pas changé de nature depuis le début de l'Église. Ce danger étant celui de contempler l'amour de Dieu, d'en parler avec émotion et avec larmes, et de ne pas nous savoir engagés par cet amour pour le manifester nous-mêmes dans notre sphère. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Attention, n'en restons pas à la contemplation de l'amour de Dieu, n'est-ce pas ? N'en parlons pas avec larmes et émotions seulement, mais sachons que cet amour, n'est-ce pas, doit nous conduire nous-mêmes dans un amour pour les autres. Rien, d'ailleurs, dans l'Écriture ne doit rester à l'état de principe ou à l'état d'objet d'admiration. Mais ça, ce que je vous dis, n'est-ce pas, ça se rencontre fréquemment. Des gens, n'est-ce pas, qui sont capables de vous parler de l'amour de Dieu avec peut-être beaucoup d'éloquence, s'ils ont un peu de lettres, n'est-ce pas, et alors, ils vont vous parler de l'amour de Dieu, ils vont en pleurer, et puis, ils n'en font rien du tout. Alors là, ça ne va pas. Rien ne doit rester à l'état de principe, n'est-ce pas, tout est destiné à être mis en pratique. La contemplation de l'amour de Dieu doit nous arracher à nos sentiments d'avant-conversion et nous rendre nous-mêmes productifs du fruit de l'amour. Le fruit de l'amour, n'est-ce pas, nous devons nous aussi le produire. Aimer, non plus humainement, mais aimer comme Dieu avec l'esprit. Nous allons voir d'ailleurs le mot « esprit » réapparaître, et il y a un petit quelque chose qui ne vous a peut-être pas échappé dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 16. L'amour de Christ, il s'agit de l'amour, voyez, nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Ils sont morts dans les conditions des conséquences de la crucifixion. Et qu'il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, voyez-vous, ne vivent plus repliés, n'est-ce pas ? C'est fini cet égoïsme d'avant qui constitue le péché, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous ne connaissons personne selon la chair, c'est très beau, ça, n'est-ce pas ? Et c'est à mettre ça, n'est-ce pas, au compte de l'amour et de la vie nouvelle, parce que si nous regardons les autres selon la chair, nous allons découvrir en eux toutes sortes de mauvaises choses, de défauts. Les défauts que d'autres peuvent découvrir en nous, n'est-ce pas? Bon, alors, nous allons les juger sur l'apparence. Nous allons peut-être déjà juger leur personne physique, nous allons juger d'après peut-être la sympathie plus ou moins grande qui émane d'eux, n'est-ce pas? Et nous allons les juger aussi sur ce que nous leur verrons faire. Ils vont mal se comporter à notre vue, n'est-ce pas? Alors, nous allons les juger là-dessus. C'est ce qu'il ne faut pas. Parce que si Dieu nous jugeait ainsi, nous ne ferions jamais de progrès, nous serions écrasés et non pas, n'est-ce pas, au contraire, admis dans un processus de croissance. Alors, ce qu'il faut, c'est que nous regardions les autres comme des enfants de Dieu. N'est-ce pas, notre vue doit être une vue de l'esprit sur les autres. Christ est mort pour lui, mort pour elle, n'est-ce pas? Nous regardons les autres membres de l'Église comme choses infiniment précieuses, n'est-ce pas? Et c'est donc quelque chose de surnaturel. L'amour de Dieu est un torrent d'eau vive qui entraîne tout sur son passage, dans le sens de son courant. Ainsi, le véritable enfant de Dieu, s'il est dans le torrent, du fait même qu'il est aimé, n'est-ce pas, il est aimé, ne pourra qu'aimer lui aussi, il sera entraîné dans le sens de l'amour, dans le sens de ce courant, n'est-ce pas, vous voyez. C'est donc une chose qui doit se faire non pas par une contrainte exercée sur soi-même, mais qui doit se faire d'une façon surnaturelle. Le verset 7, d'ailleurs, a bien exprimé que nous nous aimons les uns les autres parce que l'amour est de Dieu. Verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns des autres, car l'amour est de Dieu. Car, il y a le car l'amour est Dieu, parce que l'amour est de Dieu, n'est-ce pas? C'est ainsi que nous pouvons nous aimer les uns les autres. Alors, cet amour fraternel sera donc le rejaillissement de l'amour que Dieu a pour nous, et de l'amour même, n'est-ce pas, que nous allons donner à Dieu, n'est-ce pas? Ce sera le rejaillissement sur nos frères et nos sœurs. Un objet éclairé, par exemple, autre image, un objet éclairé rayonne la lumière, surtout s'il est brillant, s'il a bien été lustré, et le Seigneur nous a lustré, nettoyé, n'est-ce pas, il a fait de nous, il veut faire de nous un objet en or véritable, n'est-ce pas, l'or c'est la sainteté. Eh bien, si vraiment, n'est-ce pas, nous sommes cet objet, bien poli, bien, alors la lumière se portant sur nous, nous allons nous aussi, n'est-ce pas, refléter la lumière. Si l'amour de Dieu se porte sur nous, nécessairement, n'est-ce pas, à partir de nous, l'amour de Dieu se reportera sur les autres. C'est comme ça qu'il faut envisager les choses. Et non pas comme une obligation froide à laquelle on ne peut répondre que par qu'en s'obligeant soi-même, n'est-ce pas, c'est pas ça. Nous pouvons voir aussi le verset 12, tout de suite. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Ah, voilà quelque chose. Personne n'a jamais vu Dieu, personne n'a jamais contemplé Dieu. C'est malheureux que notre traduction ici s'obstine à mettre le verbe voir, qui ne traduit pas bien le grec. N'est-ce pas, quand dans Jean, l'évangile de Jean, par exemple, n'est-ce pas, c'est au chapitre 5, celui qui a vu le Fils de l'homme et qui croit en lui a la vie éternelle, a vu. Mais nous ne pouvons plus le voir, puisque, n'est-ce pas, nos yeux ne peuvent pas le voir. Donc le terme voir ne va pas. Si l'on met le terme contempler, comme cela est dans la deuxième épître aux Corinthiens, contempler, c'est contempler qu'il faut voir là. Alors, si personne n'a jamais contemplé Dieu, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Il y a un enchaînement de conséquences, n'est-ce pas? Son amour est parfait en nous, c'est-à-dire son amour est accompli en nous. Il est parfait, c'est-à-dire il est accompli, il s'accomplit. Il s'accomplit en nous, n'est-ce pas? Il prend sa forme, il prend toute sa nature, toute sa consistance, toute sa force à partir de nous. Il s'accomplit en nous. Ainsi, ce n'est pas le disciple qui engendre l'amour pour ses frères. On pourrait dire, n'est-ce pas, en paraphrasant un mot de Paul, que c'est Christ qui aime en lui. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On pourrait dire, n'est-ce pas, ce n'est pas moi qui aime, c'est Christ qui aime en moi. Personne n'a jamais contemplé Dieu, ce n'est donc pas de la contemplation que vient l'amour, mais de la présence de Dieu en soi. Verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Dans ce texte sur l'amour, voici que survient le mot « esprit » avec un grand T, l'esprit de Dieu. Parce que l'amour exercé, bien sûr, est le fruit de l'esprit. Quand on dit que l'amour vient, n'est-ce pas, l'amour est en nous, ben, il est apporté par le Saint-Esprit. Romains 5:5 dit bien que l'amour est versé dans les cœurs par l'esprit, par le Saint-Esprit. Tout cela se tient, n'est-ce pas? Il y a d'ailleurs cinq grandes réalités surnaturelles qui font un ensemble, qui sont éternelles, les grandes réalités éternelles. Enfin.
Le prédicateur marque ici au tableau ces cinq grandes réalités éternelles. Quatre sur un arc de cercle, vérité, vie, esprit, amour, et la cinquième au-dessous, royaume de Dieu.
Ce sont les cinq grandes réalités éternelles que le chrétien reçoit en bloc, ensemble, en masse, qui forme un tout. C'est la couronne de vie. C'est la couronne de vie, n'est-ce pas? Et chacune de ces vérités tient l'autre, n'est-ce pas? Elles se tiennent toutes ensemble, elles forment un ensemble. Nous connaissons donc que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Voilà un moyen de savoir si nous sommes dans la communion. Si nous sommes dans la communion. Ce verset déclare en somme ceci. L'esprit que Dieu nous a donné nous fait comprendre que nous sommes dans la communion. C'est alors que l'enfant de Dieu se rend compte, il comprend, il se rendra compte, il constatera que le centre de sa vie n'est plus dans sa propre personne, qu'il n'est plus l'homme replié sur lui-même. Il comprendra donc que le centre de la vie n'est plus dans sa personne et qu'étant dirigé par l'Esprit de Dieu, s'il est vraiment dirigé, qu'étant dirigé par l'Esprit de Dieu, dans les manifestations de l'amour, il est réellement en communion. Voilà ce que Jean veut nous dire. N'est-ce pas ? Je répète, l'enfant de Dieu se rendra compte que le centre de sa vie n'est plus dans sa personne, c'est fini ça, c'était l'état de péché, que le centre de sa vie n'est plus dans sa personne, et qu'étant dirigé par l'Esprit de Dieu dans les manifestations de l'amour, il est réellement en communion. Voilà ce qu'il va constater, voilà un grand signe, n'est-ce pas? Un grand signe, dans les manifestations de l'amour, chers amis, et non pas dans les manifestations des dons spirituels. Attention, attention. Ce ne sont pas les dons spirituels qui sont le test. Je regrette, mais ce ne sont pas le test de la communion. Le test de la communion, n'est-ce pas, c'est de constater qu'on n'est plus soi-même, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est fini, ça, Paul le constate, quand je vivais moi, c'est dans ma chair, la chair elle est restée la même. Mais quand je vivais dans ma chair, moi c'était moi, alors je persécutais les saints. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Mais, n'est-ce pas, il y a là les manifestations de l'amour dirigées par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui va lui-même diriger les manifestations de l'amour et cet homme sera, alors, ce disciple sera celui dont les béatitudes disent « Heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Les miséricordieux. Verset 14. Et nous, nous avons vu, et nous, nous avons vu. Quelquefois nous chantons, et nous, nous avons cru, n'est-ce pas? Eh bien, ici, il y a une insistance aussi dans le grec, et nous, nous avons vu, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Qui, nous? Eh bien, ce n'est plus là la généralité des croyants, ici. Et nous, nous avons vu. Et nous attestons. Ah, attention. Et c'est pour nous qu'il atteste. Alors, ici, c'est nous, c'est Jean et les autres apôtres. C'est une attestation apostolique, il revient à l'attestation apostolique dont il a déjà parlé, n'est-ce pas? Il y revient sous cette forme. Et nous, nous avons vu et nous attestons. C'est le rôle des apôtres de poser le fondement avec Christ. Par conséquent, leur attestation, n'est-ce pas, Dieu nous la donne, et nous aurons l'occasion d'y venir dans le chapitre 5, à cette attestation des apôtres et au témoignage de Dieu, n'est-ce pas? Dieu nous dit, considérez le témoignage des apôtres dans la Sainte Écriture. Considérez-le, ce témoignage. Et le Saint-Esprit mettra ce témoignage des apôtres en lumière. C'était leur rôle à ces apôtres, aux 12. C'était leur rôle, n'est-ce pas, de nous attester. Ils étaient là pour voir, pour contempler, pour constater. Nous, nous avons vu, nous avons contemplé. C'est toujours la même chose, ce n'est pas vu, mais c'est contemplé. Jean veut dire, n'est-ce pas, nous n'avons pas regardé seulement. Nous n'avons pas simplement regardé avec intérêt, curiosité, notre maître, le Seigneur Jésus, auprès duquel nous avons été pendant 3 ans, n'est-ce pas? Nous n'avons pas seulement regardé de cette manière-là. Non, mais nous avons eu du bonheur. Un grand bonheur. Contempler, dans contempler, il y a le bonheur. Nous avons eu du bonheur, un grand bonheur, à porter sur le maître un regard de foi et d'amour. Nous avons laissé notre regard de foi et d'amour pénétrer notre maître pour trouver en lui, découvrir en lui ce Fils de Dieu venu de Dieu. Ah, alors là, nous pouvons l'attester, nous pouvons le certifier, parce que de cette pénétration qui nous a été rendu possible, n'est-ce pas? Alors là, nous retirons un témoignage que nous vous apportons. Et là encore, voyez, Jean est poussé à remettre encore ce témoignage en cause. Là, on dirait, n'est-ce pas, qu'il y a une sorte de digression là, mais c'est pour donner de la force à l'ensemble de sa démonstration. Chers amis, il faut que nous retrouvions la force de toutes ces choses. La puissance de tous ces textes, n'est-ce pas, ce ne sont pas des textes simplement, ce sont des textes, mais, n'est-ce pas, le Saint-Esprit nous les a donnés pour que nous puissions, avec eux, par leurs moyens, mais par le moyen du Saint-Esprit aussi, n'est-ce pas, retrouver la grande réalité, la puissante réalité de ces choses, et des certitudes profondes en nous. Nous avons regardé, contemplé, regardé le maître par le regard de la foi. Jean est poussé donc à remettre en lumière le témoignage si précieux des apôtres. Ils peuvent attester que Dieu a réellement envoyé son Fils comme sauveur. Et le verset 15, « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Nous avons déjà vu cela, la confession que Jésus est le Fils de Dieu. Je ne m'y arrêterai pas ce matin. Je dirais simplement que le Fils envoyé par le Père est objet de la foi. Les apôtres nous convient à recevoir ce témoignage qui est central et dont toute notre vie chrétienne dépend. Ce témoignage central, comme je le disais en commençant ce matin, ce témoignage central, n'est-ce pas? C'est là-dessus qu'il faut que notre vie chrétienne soit fondée. Ne regardons pas à droite, à gauche, n'est-ce pas? Fondons notre vie sur le fondement de Christ et des apôtres. Établissons là notre vie chrétienne, qui est une vie spirituelle, pas une vie religieuse, c'est une vie spirituelle. Si c'était religieuse, alors, n'est-ce pas, eh bien, nous ferions des processions. Mais c'est pas ça que nous faisons, n'est-ce pas? Nous nous aimons les uns les autres par un amour qui est produit par l'Esprit de Dieu. Mais il faut confesser, que Jésus est le Fils de Dieu. Et cette confession n'est pas une chose qui reste logée dans un certain moment de notre vie chrétienne. Il faut y revenir constamment. Nous le faisons bien dans la louange. Dans la louange, le dimanche, nous le faisons, n'est-ce pas? Mais faisons-le avec vraiment toute la force de notre foi. N'est-ce pas? Le dimanche, dans les louanges, en général, on reprend, n'est-ce pas, la confession de Jésus en tant que Fils de Dieu venu en chair. Il faut le confesser, il faut en faire sa pensée dominante, et de cette pensée viendra la communion. Tout cela se tient, n'est-ce pas? Mais vous voyez que l'établissement de notre vie chrétienne et le maintien de cet établissement. L'établissement sur le fondement. le fondement auquel il faut revenir par une confession de Jésus, Fils de Dieu. Hein, eh bien, l'établissement de notre vie sur ce fondement, ça, c'est capital. Il faut absolument que nous veillions à ça, hein, parce que sans ça, nous ne pourrons pas rayonner l'amour, sans ça, nous serons peut-être très hésitants, très malheureux dans le cours de notre vie, nous lutterons mal, nous lutterons trop, n'est-ce pas? Nous lutterons contre nous-mêmes, alors que nous aurions seulement à lutter contre ce qui est au dehors, ce qui est hostile au dehors et non en nous-mêmes. Nous ne devons pas avoir à lutter en nous-mêmes. Il faut que tout s'établisse selon cette grande réalité du Christ Sauveur. Amen.